Renault.
Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offerts.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
coup de cul,
il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute au podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger. Avec ce soir pour l'Angleterre, une drôle de dame qui n'ose plus espérer une dissolution du staff de Sylvain Ripoll anglais avant l'Euro. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Pour l'Espagne, une drôle de dame qui est en train de s'auto-dissoudre, moins 8 kilos en 3 mois. Bonsoir Fred Hermel.
Et c'est pas fini. Hola chicos.
Pour l'Italie, une drôle de dame qui a dissous un efferalgan dans un verre d'eau hier soir. Bonsoir Yohann Crochet.
Évidemment, le match de l'Italie n'était pas génial et ça fait mal à la tête. Bonsoir.
Mal à la tête, effectivement. Et puis Polo Breitner qui va nous rejoindre pour l'Allemagne. Polo, hein,
j'ai peur.
Qui attend une dissolution immédiate des consultants foot en France et dans le monde. Bonsoir à Polo Breitner qui arrive dans quelques secondes. Dernière de la saison pour les drôles de dames. Elle sera consacrée à l'Euro qui débute dans 4 jours. Vous avez choisi chacun une façon de parler de vos sélections. Tiens, Julien, que vas-tu nous dire de l'Angleterre ce soir ?
On va parler de la controverse autour de Bukayo Saka et de son traitement dans les médias. On va parler du joueur à suivre dans cette équipe d'Angleterre pendant l'Euro, le petit prodige de Manchester United, Kobbie Mainoo. Et on va revenir sur l'Euro 96, qui forcément était très spécial pour les Anglais, même s'il faut le rappeler, hein, ils n'ont jamais gagné un seul euro de nos 5 pays, puisque Nico, toi, tu représentes la France. C'est le seul à jamais avoir gagné un euro.
Julien, Johan, pardon.
Eh ben nous, on va parler du cas de Donnarumma. Très intéressant et stop au bashing de Donnarumma. Fratesi peut-être le facteur X, plus qu'une révélation, peut-être un facteur X pour cette sélection. Et puis on évoquera également du côté de la minute un aspect particulier du football italien.
Fred.
Et on va parler de la fin désormais totalement assumée du tiki-taka, en rappelant ce qu'était le tiki-taka de la sélection espagnole. On va parler d'un espoir, en tout cas un joueur sur lequel moi je mise particulièrement pour cet euro, Nico Williams, le frère de l'autre. Et puis, dans la minute, on va parler de la vraie fausse non peut-être, et finalement oui, participation du Real au prochain Mondial des clubs en fin de saison prochaine.
Et Polo sera là avec nous, hein. Il nous parlera notamment du duo Wirtz-Musiala. L'Allemagne attend des étincelles de ce duo. Il sera avec nous dans quelques secondes, le cher Polo, l'histoire d'abord qu'on rétablisse la ligne avec lui. C'est donc parti. Je vous rappelle qu'à 21h45, le quart d'heure des auditeurs, vous appelez le 32-16, vos questions à Polo, Fred, Johan et Julien. N'hésitez pas, hein, pas forcément sur l'euro d'ailleurs, hein, sur l'actualité plus globale du football européen. Les amis, en France, l'euro n'a pas encore pris un 4 jours du coup d'envoi. Je sens pas ici, pour l'instant en tout cas, une effervescence, un enthousiasme fou. Mais d'abord, j'ai oublié Nico Villas, qu'on a un nouveau plateau ce soir.
Pourtant, je suis en jaune et
tout. Bonsoir Nico. Ouais. L'after à 22h.
En rouge.
On est bien peu de choses.
C'est le cas de le dire.
Alors Nico, l'after à 22h ce soir avec toi.
Ouais, avec Thibaut Leplat et Daniel Riolo, on vous attend en 32-16 bien sûr. J-4 avant le début de l'euro, tu l'as dit, il n'y a pas un grand engouement autour de la compétition. Il n'y avait pas un grand match hier non plus pour les Bleus face au Canada, dernier match de prépa avant l'euro. Mais Thibaut Leplat a un avis tranché. Il a changé d'avis sur Deschamps, souvent taillé, y compris dans l'after, par Thibaut Leplat, et il va nous expliquer pourquoi. Quel Mbappé aura-t-on, verra-t-on à l'euro, le meilleur? Va-t-il dépasser tout le monde, comme l'a dit d'ailleurs Zidane dans un documentaire qui a été diffusé hier sur TF1. Venez nous le dire là aussi au 32-16. Et puis aujourd'hui débute officiellement le mercato d'été également. Alors le PSG sans Mbappé, l'OM qui n'a pas encore d'entraîneur, les remaniements à Lens, Rennes ou Nice. Quel dossier vous excite le plus dans ce mercato? Venez nous le dire au 32-16. Et puis suite des droits télé également, gros dossier, vous le savez, qui va d'ailleurs conditionner le mercato. Les présidents de clubs français commencent à s'interroger et Daniel a un avis tranché sur Vincent Labrune. Devinez.
qu'il parte.
Faut le prolonger. Voilà, putain, vous êtes là, les mecs, incroyable. L'expertise que vous avez, c'est fou quand même. Voilà, 32-16 à tout à l'heure, à partir de 22h.
À tout à l'heure, Nico, pour l'after avec Thibaut et Daniel, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Vous nous appelez au 32-16, bien sûr, vous le savez. 21h45. On est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after, @after-foot. Pour nous voir, commenter dans le chat, vous abonner également. Et puis, le traditionnel Direct Studio sur l'application RMC Sport. Bon, est-ce que ça monte chez vous, les amis, pour l'instant? C'est qu'on a du mal à réaliser que dans 4 jours va débuter un euro en Allemagne. Chez toi, mon cher Fredo.
Non, il n'y a pas un grand engouement, mais c'est normal en Espagne.
Oui, c'est historique, c'est normal.
C'est historique, c'est-à-dire que il faut rappeler qu'avant avant 2008, 2010, 2012, hein, cette triplette de titres historique. Et même à cette époque-là, hein, il fallait vraiment que la compétition commence pour que les Espagnols soient vraiment à fond derrière leur sélection. Tout simplement parce que l'Espagne n'est pas un pays de sélection, c'est un pays de club. Il y a des mastodontes, et puis le Real vient de remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, moi je sais que... Je me souviens par exemple du dernier Euro. Non, c'était la dernière Coupe du Monde. C'était la dernière Coupe du Monde. Non, le dernier Euro, voilà, le dernier Euro.
Euro 2021,
quand Benzema n'est pas sélectionné par Deschamps. Les Madrid et que il y avait toute cette histoire.
Benzema était à l'Euro, hein, au dernier Euro pour l'équipe de France. Il a marqué.
Donc c'est le dernier mondial, je veux dire. Attends.
Oui, quand il part, blessé en catimini avant le début du mondial, peut-être.
Non, mais c'est lequel quand il n'est pas sélectionné. Non, c'était le mondial.
On parle de l'Euro 2000.
Enfin, je sais lequel.
Du monde 2018.
C'était ouais,
2018.
Coupe du monde 2018.
Coupe du monde 2018, où Benzema n'est pas et où il y a beaucoup d'Espagnols, par exemple, qui disent que. Je suis en train. Il y a tellement de dates. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'Euro, il y a le retour de Benzema. C'est ça, c'est exactement ça. À l'époque, il y a pas de madridistes dans la sélection espagnole, et il y a beaucoup de madridistes qui disent on choisit la France parce qu'il y a Benzema.
D'accord.
C'était ça. J'étais en train de me faire un mélange entre l'absence et la présence de Benzema. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas une émotion dingue. Après, si ça commence à bien jouer, si ça commence à gagner, il y aura bien entendu une certaine ferveur. Mais c'est pas dans la culture espagnole que d'être à fond derrière la sélection. Tout simplement parce que c'est pas vraiment un pays très uni. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est un pays ultra-régionaliste, qu'il y a les Basques, qu'il y a les Catalans, qu'il y a les Canariens, il y a quand même des régions avec très très forte
identité locale.
Ouais, identité locale. Mais par exemple, il y avait pas eu de pendant le mondial 2010, par exemple, il y avait même pas eu de d'écran géant à Barcelone, alors que c'était l'Espagne, alors qu'il y avait plein de joueurs du Barça. Voilà, parce que la ville de Barcelone considérait qu'il fallait pas être trop espagnoliste, quoi. Donc il faut, c'est toujours très dur de faire démarrer la machine. C'est vraiment quelque chose de compliqué en Espagne. Et là, franchement, c'est, on va dire que c'est encore assez anecdotique. Voilà. Mais c'est, en fait, quand il s'agit de la sélection espagnole, les supporters ne supportent pas, pour l'instant. Ce sont les joueurs qui doivent convaincre d'avoir le soutien du public.
Polo est avec nous, ça y est. Bonsoir, Polo.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, tout le monde.
Je pose des questions à toi également, mon cher Polo. Tu vas recevoir l'Euro 2024. Est-ce qu'en Allemagne, tu sens déjà poindre une effervescence, un engouement? Pas encore.
Il y a des émissions à la télé, il y a la publicité évidemment faite par les journaux sportifs, etc. Il y a un décompte, par exemple le journal Kicker a fait un décompte et a fait 32 pages spécial Euro 2024, etc. Mais je n'oublie pas la dernière rencontre amicale à Mönchengladbach, qui est un haut lieu du football allemand, où la bouillie qu'on a vue sur le terrain de la Nationalmannschaft s'est vue aussi dans les tribunes, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance. Donc tout ça fait que j'attends un petit peu, un peu comme Fred, le début de la compétition, rappelant tout de même que l'Allemagne se gossait pendant des années, que l'Euro était sa compétition. Moi, ça m'a toujours fait éclater de rire lorsque Beckenbauer était devenu champion du monde en 1990. Il dit on dominait déjà l'Europe du football par les titres européens, etc. Et maintenant, nous allons, avec l'Allemagne réunifiée, nous allons dominer le monde. C'est pas ce qui s'est passé exactement. Mais si tu veux, ça montrait bien ce qu'était sa compétition pour la RFA de l'époque, qui deviendra l'Allemagne réunifiée. Là, la dernière demi-finale, elle date de 2016 quand même. Donc, c'est pas si loin que ça, parce que c'est juste deux compétitions avant. Mais il y a eu la période 2018, on va dire, jusqu'en 2022, qui est un peu délicate. Et donc, on attend évidemment une équipe d'Allemagne au minimum en demi-finale. Mais de là à ce que ce soit flamboyant bah, on va dire qu'il y a d'autres actualités qui occupent aussi le devant de la scène. Sûr. Et donc, on verra ce que ça va donner. Je vais dire ça.
Mais ce qui est quand même étonnant, Polo, c'est que vous êtes le pays organisateur quand même.
Oui, c'est ça, c'est pour ça.
J'ai pas de doute sur l'organisation, sur tout ça, le fait qu'il y ait la fête, etc. Mais est-ce que le public allemand va suivre? Je n'en suis pas persuadé. Rappelons que la fédération allemande a de gros problèmes financiers, forcée de s'endetter, etc. Qu'il y a des procès en ce moment liés au fameux, parce que tout le monde parle du Sommermärchen de 2006, évidemment le compte d'été de 2006 qui avait remis sur le devant de la scène l'Allemagne en tant que nation organisatrice. En gros, on fait partie des bons pays, etc. Il y a des procès en ce moment à Francfort. Il y a des comptes qui vont pas bien. Il y a une sélection qui se porte pas génialement bien. Les jeunes se font sortir des compétitions, etc. Donc, tout ça, on est dans une ambiance un peu morose. Et donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça ne veut pas dire que les stades ne vont pas être pleins. Mais pour que les stades soient pleins, il faut aussi que l'organisation soit parfaite, les Allemands soient à faire. Mais faut-il aussi que les Anglais débarquent, que les Italiens débarquent, que les Espagnols débarquent, etc. Bon. Donc, l'ambiance, on la connaît. On sait très bien ce que veut faire Philippe Lahm. C'est-à-dire qu'on va considérer au sens large que c'est la compétition qui sera la plus ouverte du monde au sens amical. Qu'est-ce que ça va donner dans le résultat? C'est une autre chose. Et il vaut mieux, dans ces conditions-là, que le pays organisateur aille loin.
On se souvient de la fête incroyable en 2006 hein, pour le mondial hein, exceptionnel.
C'est le mondial le mieux organisé, dont je me souviens.
Hein. C'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Chez le tenant du titre, l'Italie.
Bon, ça monte petit à petit. C'est aussi un témoin de quelles sont les attentes pour la sélection nationale. Parce que s'il y a eu des énormes attentes avec un pays favori, je pense qu'on en parlerait plus. Il y a aussi un truc qui se retrouve beaucoup en Italie, notamment dans la presse, mais même presse écrite, j'entends, mais aussi maintenant sur les médias digitaux et sur la télé, puisqu'on a des chaînes dédiées quasiment qu'à ça, c'est le mercato. Mmh. Et en Italie, je dis souvent que le mercato est un sport dans le sport et qu'il est traité comme un sport, devrait l'être de manière brute, comme le football l'est de manière normale. Donc, vous prenez aujourd'hui la Gazzetta dello Sport, l'essentiel des sujets, avant même qu'on parle de l'équipe nationale, c'est des sujets mercato. On va parler de Zirkzee à Milan, on va parler de ce qui va se passer à l'Inter, à la Juve, etc. etc. Donc, il y a des jours où, le lendemain de match de l'Italie, évidemment, on va mettre l'Italie quand même un petit peu en avant. Mais les autres jours de la semaine, en attendant l'Euro, c'est le mercato qui prend le dessus surtout. Donc, il n'y a pas, pour le moment, de frémissement vraiment notable dans toute la presse italienne. Mais nul doute que quand ça va commencer, connaissant l'amour de la compétitivité de l'Italie dans les grands tournois européens et des attentes qui, même s'il n'y a pas une grande sélection nationale, restent toujours élevées, peut-être parfois un peu démesurées, on sera à fond évidemment.
Oui, et ce qui ira à fond les Italiens comme nous ici, ce sont les débats qui s'écrivent pendant la compétition. Ça va être ça qui va intéresser.
Même s'il n'y a plus beaucoup de presse d'opinion en italien.
Ah bon?
Ah non, il y a très peu de presse d'opinion. Ou en tout cas,
sur le fond, tu veux dire
y a ouais. plus de... En tout cas, c'est de l'opinion plus style écriture positive, notamment. Alors, je ne parle pas spécialement pour la sélection nationale. Par exemple, pour le championnat, aujourd'hui, les diffuseurs, c'est une très belle écriture positive du championnat.
Ah bah oui, ça.
Ah oui, il y a pas
les diffuseurs. Journaux. Là, tu parles du diffuseur télé.
Ouais. Ouh. Mais même ça se reprend aussi dans la presse écrite, etc. Donc,
c'est fou ça.
Voilà, une émission comme aussi. Une émission comme l'After, ça n'existe plus en Italie aujourd'hui. Vous n'auriez plus la capacité de tenir des propos qu'on peut tenir dans l'After tranquillement, étayés, argumentés.
Quoi, c'est de l'auto-censure, c'est un réajustement spontané ou c'est
Ouais, alors je pense qu'il y a aussi un manque de connaissances ouais. de beaucoup, notamment des consultants. Thème cher, pardon, à
que j'attends tout le temps d'ailleurs.
On a fait le faire aujourd'hui, mais on le fera d'accord.
Mais quand les consultants ne regardent pas les matchs ou regardent à peine les matchs, ça devient difficile d'en parler aussi.
Il y a 10 consultants en Italie qui regardent les matchs quand même. Après, les mecs développent leur chaîne YouTube maintenant. Où
après, il y a aussi le copinage, très présent, très présent en Italie. Donc, il ne faut pas dire que l'entraîneur fait mal jouer son équipe parce qu'on est copains avec lui. Au contraire, on va dire que les joueurs sont mauvais. Voilà, donc ça enlève tout un pan de débat possible en Italie sur le football italien.
C'est un super sujet qu'il faudra ouvrir sur les semaines, à la rentrée prochaine.
Ah ouais, mais on n'a pas d'émission comme ça.
Tous les soirs,
les différents traitements.
Comme l'After, tous les soirs sur toutes les radios espagnoles, tu as le fameux Chiringuito qui est en télé et tout, et ça balance.
C'est grave, soit on fait de l'information brute, on va faire défiler les infos, les unes après les autres, on va dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. Soit ce sera de l'écriture positive avec du copinage.
De l'accompagnement, donc, voilà.
De l'accompagnement,
il n'y a plus jamais de recul. Il n'y a plus jamais de recul. C'est-à-dire qu'on va sortir une thématique, comme si 10 ans avant cette thématique n'avait jamais existé.
Exactement.
Et ça, c'est un vrai problème.
On s'étonne de tout, Polo, alors qu'il y a des trucs qu'on voit depuis bien longtemps.
Je suis toujours surpris dès que les gens soient surpris. En fait.
Bon, en Angleterre, heureusement, il y a Gab & Joule, le podcast, bien sûr. Je ne sais pas s'il fait de l'accompagnement. Hein, comment ?
On fait tout, nous. On fait opinion, on fait tout. Nous. Information, télé, podcast, tout ce que tu veux.
Ça rapporte bien ? Vous avez dit du bien, en sérieux, ça rapporte bien ou pas ?
Vous avez dit du bien d'Allegri cette saison ou pas ?
Ah non, parce que Gab, il était comme toi, il n'aimait même pas du tout Allegri, et moi, de ce que je voyais, tous les matchs du week-end et week-end, non, donc on, ouais, a, ça va alors, c'est on bien. A fait du bashing bon. Allegri.
Julien, rapidement chez toi, est-ce que ça monte ? Est-ce que la sauce anglaise monte avant l'Euro ?
Ouais, ça monte, mais nous toujours, avant les grands tournois comme ça, il y a toujours de la polémique, il y a toujours beaucoup d'articles dans tous les journaux, il y a beaucoup de journaux aussi, donc ça aide forcément. Ah oui. Il y a des discussions un peu tactiques, des discussions un peu sur les choix du Sylvain Ripoll anglais, tout ça. Non, nous, c'est toujours comme ça. Hein. On attend beaucoup d'anglais d'ailleurs en Allemagne, on attend beaucoup d'écossais aussi. J'étais avec Kenny Miller samedi à la télévision anglaise. Il disait qu'ils pensent qu'ils seront 150 000 les Écossais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais 150 000 Écossais en Allemagne, ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup de bruit et ça boit beaucoup aussi. Donc voilà, tout le monde est excité de ce côté-là de la Manche en tout cas.
Pour le match d'ouverture.
Est-ce que ça continue en Angleterre simplement, Julien, qu'il y a des supporters de la section anglaise qui sont différents des supporters des clubs ?
Non. Différent dans quel sens ?
Est-ce qu'il y a une communauté de supporters anglais
qui suivent spécifiquement la sélection et qui sont moins dans leur club ?
Non. Mais en revanche, t'as des clubs comme à Liverpool, par exemple, où j'imagine un peu comme chez vous aussi, qui préfèrent, pour eux, tout ce qui compte, c'est Liverpool. L'Angleterre, la sélection anglaise, ils n'en ont rien à faire. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que Liverpool joue bien. Et l'Angleterre vient bien, bien loin derrière les résultats de Liverpool, les informations de Liverpool et tout ça.
Allez, pause. Dans un instant, les drôles de dames, hein, sur RMC. Julien, tu nous parles du traitement réservé à Bukayo Saka en Angleterre et le coup de gueule de Johan. Hein. Stop au Donnarumma bashing. Vous écoutez RMC. Les drôles de dames, comme tous les lundis soirs jusqu'à 22h. À tout de suite.